Je vais arrêter à la question de la découverte du principe de finalité, si vous vous souvenez bien. L'éthique, c'est-à-dire à quel moment le principe de finalité va être découvert dans notre vie, c'est très important parce qu'à ce moment-là, on voit que cette première découverte dans l'activité artistique est liée à la causalité finale et elle est liée à l'œuvre. C'est ça qui me semble important à souligner. C'est lié à la causalité exemplaire, en ce sens qu'il y a l'idéa, et c'est lié à l'œuvre, en ce sens que l'œuvre, c'est le résultat, c'est là où je saisis ce en vue de quoi je travaille. Et donc, la causalité finale, dans son point de départ, n'est pas saisi à l'état pur. Il y aura toujours, j'allais dire, deux tentations permanentes si on n'est pas très attentif, si la détermination se laisse engluer par le conditionnement. Quand on est dans une situation limite, c'est ce qui arrive. C'est que le conditionnement l'emporte sur notre détermination. Dès qu'on est fatigué, c'est le signe de la fatigue, ça. Et on le sait bien, il faut avoir suffisamment de lucidité pour s'en apercevoir. Alors, le conditionnement l'emporte. Eh bien, il y a une fatigue intellectuelle collective, vous savez, c'est le phénomène de la scolastique décadente, c'est le phénomène de la fatigue. Le phénomène de la fatigue se traduit tout simplement au point de vue philosophique par le fait qu'on répète sans comprendre, ce qui est permis pour les examens, mais ce qui n'est jamais permis en dehors des examens, de répéter sans comprendre. N'est-ce pas ? Dans les examens, c'est permis, c'est évident. Le professeur n'a qu'à être intelligent. Mais en dehors des examens, c'est jamais permis. Alors, dans la fatigue, il y a ce point de vue de la détermination qui s'englue, qui tombe dans le conditionnement. Alors, c'est pour ça que c'est toujours très important de saisir, dans le premier moment de la naissance du principe de finalité, de voir qu'il y a ce conditionnement du côté de la cause exemplaire, ce conditionnement du côté de la cause matérielle. Et au fond, ce seront les deux engluements, si j'ose dire, du principe de finalité. Le principe de finalité, quand il n'est plus saisi dans toute sa pureté, va toujours s'engluer dans la causalité exemplaire. Alors on aura tout le néoplatonisme. Et le néoplatonisme exprime bien une espèce d'englument, si vous voulez, c'est qu'on n'a plus le réalisme suffisant, alors on se laisse emporter par le point de vue du conditionnement de la cause exemplaire ou le point de vue de la cause matérielle. D'un point de vue de cause matérielle, c'est le positivisme, c'est tout ce point de vue-là où on voit que la causalité finale n'est plus saisie que comme un effet, comme une conséquence. Alors, c'est le primat de l'efficience, vous voyez. Il y a ou le primat de l'efficience, ou le primat de la causalité exemplaire. Et je crois que ça détermine bien, dans l'histoire de la philosophie, les deux grandes tentations permanentes de la causalité finale. Ce serait intéressant à illustrer ça au point de vue historique. Ce serait très intéressant et facile. Regardez dans Descartes, c'est net. Regardez dans le stoïcisme, c'est net. Et regardez dans le positivisme, c'est encore plus net. De voir l'englument de la causalité finale dans le point de vue de la cause matérielle et dans le point de vue de la cause exemplaire. Ceci, c'est donné dès le point de départ. Je prends l'autre expérience, ce que nous avions vu. Je reprends rapidement, parce que c'est important, là nous saisissons quelque chose que nous devons tous essayer de saisir. Si les cours de philosophie ne vous donnent pas le sens profond de la finalité, ça ne sert à rien. Si les cours de philosophie vous donnent le sens de la finalité vécue, alors à ce moment-là, ça rectifie. Et ça nous donne quelque chose, le réalisme et la finalité. Parce que le réalisme seul, c'est pas suffisant, Le jugement d'existence, le jugement de... c'est pas suffisant, c'est très bien, mais c'est le point de départ. Et si vous restez accroché à ça, ça va plus. Alors, il faut saisir l'autre aspect, jugement d'existence, et le point de vue de la finalité. Alors, comme c'est très difficile de saisir la finalité, dans notre monde d'aujourd'hui, c'est très très difficile, parce qu'il faut vraiment faire un effort de retourner à la source qui nous attire. Et on a beaucoup de peine à comprendre ça, beaucoup, même quand on est dans l'école thomiste. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une certaine scolastique, on a une peine beaucoup, la scolastique elle-même est tombée dans la tentation de ce principe de causalité qui s'est laissé engluer par la causalité exemplaire, par la causalité matérielle. Seconde expérience, c'est au point de vue éthique. Alors, dans l'amour d'amitié, c'est très vrai, on a là une expérience très pure de ce que c'est que la finalité, le bien qui nous attire. Comprenez, mais même là, il y a un conditionnement. Alors, quel est le conditionnement de la causalité finale saisie du côté de la causalité, du côté de l'amitié? C'est intéressant de voir ça. Quel est le conditionnement particulier qui fait que, là encore, il y a une purification à faire? C'est l'immanence de l'amour d'amitié. C'est l'amour. L'amour peut être vécu de deux manières différentes. Ou il peut être vécu dans le réalisme du bien qui m'attire, ou il peut être vécu comme ce que j'aime, le sentiment de l'amour. Vivre de l'amour dans le sentiment de l'amour, ce n'est plus vivre de l'amour. Et c'est l'immanence de l'amour. Et alors c'est l'autre tentation, la troisième si vous voulez, et c'est vrai que c'est pas commode de vivre vraiment un amour d'amitié, aimer l'autre pour lui, alors qu'on cherche toujours un peu à l'aimer pour soi, on l'accapare tout le temps, on l'aime pour nous, ah, tu n'étais pas là, qu'est-ce que tu fais, j'avais besoin de toi, mais qu'est-ce que ça veut dire, hein? Qu'est-ce que ça veut dire dans un amour vrai? C'est pas ça, c'est on sait, et on fait ça même avec Dieu, ce qui est effrayant. On fait ça même avec Dieu, on dit, mais j'ai ce sentiment de sa présence, hein, sentiment de sa présence. Alors quand on a le sentiment de sa présence, ah c'est merveilleux, on pourrait glorifier Dieu toute la journée. Mais dès qu'il n'y a plus de sentiment de la présence de Dieu, ah, j'ai plus du tout, Dieu, où est-ce qu'il est? Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas un véritable amour spirituel. Le véritable amour spirituel, c'est d'aimer l'autre pour l'autre. Pour lui-même, et pas du tout parce que c'est mon bien, c'est l'aimer parce qu'il est le bien qui, justement, que j'aime pour lui. C'est là la finalité que je saisis dans l'amour d'amitié. Mais je comprends très bien que ce conditionnement de l'amour d'amitié fait que le sentiment passionnel de l'amour, parce qu'en fait en réalité c'est le sentiment passionnel de l'amour qui accompagne ma bonne volonté, l'emporte si facilement, autrement dit, hein, dans ce second moment de la causalité finale. Vous comprenez que l'amour d'amitié, l'amour réciproque assume l'amour passionnel. L'amour réciproque spirituel, seul l'amour vraiment spirituel. Et l'amour passionnel, qui peut être aussi réciproque. Et quand l'amour passionnel est réciproque, c'est très difficile de le dépasser. C'est très vrai. C'est... Quand il n'est que d'un côté, ça va encore. Parce que l'autre est là pour le dire, hein, un peu plus spirituel, hein, dépasse un peu. Hein. Mais quand l'amour passionnel est des deux côtés, il y a quelque chose qui englue un peu, n'est-ce pas? Et c'est pas commode. Parce que l'amour passionnel, il est dans ce sens-là, vous comprenez bien. Et l'amour spirituel, il est dans l'autre sens. Hein. Ça, c'est le tragique de l'amour. Et c'est vrai, il faut le saisir, ça. Il faut saisir que la finalité dans l'amour d'amitié implique nécessairement l'amour passionnel. Parce que j'aime dans tout mon être. Et plus l'amour est fort, plus tout mon être est pris. Et même mon instinct. Et l'instinct est encore plus comme ça. Hein. Ça, c'est évident. C'est moi. Et c'est très difficile de faire que l'amour spirituel soit victorieux et assume, transforme et éduque l'amour passionnel pour lui faire changer de vapeur, vous comprenez? Et changement de vapeur, c'est pas commode, je vous l'affirme, parce que la passion, c'est tenace. Le sentiment, il est là. Il n'est pas là. Le sentiment, il est du côté passion et du côté instinct. Ça, on sait très bien ça. Et la conscience que j'ai, je peux avoir une double conscience dans l'amour d'amitié. Je peux avoir la conscience de cette volonté d'aimer l'autre pour l'autre. Et je peux avoir la conscience du sentiment d'amour que j'ai pour moi, que j'ai pour l'autre. Et vous voyez qu'à ce moment-là, le point de vue de la conscience ne signifie rien du tout. La conscience d'aimer ne rectifie pas l'amour. C'est l'amour lui-même qui rectifie l'amour. Et ça, c'est très très important au point de vue de notre propre éducation. Hein. Vous savez bien, hein, au point de vue de l'amour, vous êtes tous auto-éducateurs de votre amour. Vous êtes tous responsables de l'amour que Dieu a mis dans votre cœur. On est tous auto-éducateurs. Les autres ne peuvent rien faire du tout. On est soi-même. Pour les vertus, on peut encore aider un tout petit peu. Hein. Pour la vertu de tempérance, vous voyez, là, vous avez manqué de tempérance. Pour la vertu de prudence, là, vous avez manqué un tout petit peu. Parce que la prudence, c'est de l'ordre de l'intelligence. Alors, c'est plus facile d'écouter un autre. Du côté passionnel, du côté amour d'amitié, c'est impossible. C'est impossible. C'est tellement subjectif. Et l'objectivité est à l'intérieur de la subjectivité. Donc c'est très très difficile. Réfléchir un tout petit peu sur les expériences que vous avez dans ce domaine-là. Hein, et on en a tous, heureusement. Alors, le conseil, lui, il est entre la conscience que j'ai. Elle est des deux côtés, c'est pour ça qu'elle ne rectifie pas. J'ai une conscience du sentiment, j'ai une conscience de ma volonté d'aimer. Je veux dire, oui, je veux aimer. Alors cette conscience que j'ai de vouloir aimer spirituellement peut être très grande. Et cette conscience que j'ai du sentiment peut être très grande. C'est toujours la conscience des deux côtés. Et ce qu'il faut comprendre alors, hein, c'est que à travers cet amour d'amitié, j'ai l'expérience, je dis bien, j'ai l'expérience de la finalité. Mais, vous voyez bien, cette expérience que j'ai de la finalité, elle est lié à ce conditionnement. Ce conditionnement, c'est cet amour passionnel. C'est cet amour instinctif. Ce principe de finalité, il est saisi avec ce conditionnement. Or, l'amour passionnel et l'amour instinctif sont justement immanents. D'une immanence très très forte. Donc, alors que le principe de finalité me fait saisir le dépassement. Et le conditionnement ici me replonge dans l'immanence. C'est pour ça que c'est si difficile hein, de saisir vraiment la finalité uniquement à partir de l'amour d'amitié. C'est très important, c'est un lieu magnifique, c'est un lieu particulièrement important pour nous, parce que c'est vrai, c'est quand même là où de fait je saisis le mieux ce que c'est que l'amour, comme expérience, et que j'ai une expérience de la finalité. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que ce n'est pas très limpide. Hein. Et le conditionnement de cette saisie de ce principe de finalité, il implique l'immanence de l'amour passionnel, de l'amour instinctif, qui fait que c'est moi qui aime. C'est moi qui aime. Hein. Je t'ai aimé le premier. Hein. Ça peut se dire de deux manières différentes. Ça peut se dire divinement et ça peut se dire humainement. Quand on reprend la phrase de l'Évangile, hein. C'est moi qui t'ai aimé le premier. Alors ça vous donne des droits. Bon, je t'ai aimé le premier, je t'ai tiré de ta poisse, je t'ai aimé le premier. Là, donc, c'est moi qui ai fait ça. Alors ça, c'est l'immanence. Et vous ramenez à vous. C'est pas l'amour qui ramène à l'autre. Alors, ici, ce serait très intéressant de voir que, de fait, ce conditionnement du principe de causalité finale, vu dans l'amour d'amitié, va amener à une conception de la finalité comme métaphorique, je crois. il existe à partir de Don Scott. Et ça a même pénétré dans le thomisme. Quelqu'un comme Jean de Saint-Thomas, qui pourtant est un grand thomiste, un des meilleurs, Jean de Saint-Thomas dit que la causalité finale est métaphorique. Ça me scandalise, moi. Enfin, quand j'étais jeune, ça ne me scandalisait pas. J'ai écouté ce que dit Jean de Saint-Thomas. Puis petit à petit, progressivement, revenant sur le principe de causalité, je lui dis, mais c'est impossible que ce soit métaphorique. Il dit que c'est métaphorique à cause de l'efficience, vous comprenez. C'est que la causalité finale n'est réaliste que grâce à l'efficience. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'est, elle ne se manifeste que par la causalité efficiente qu'elle est métaphorique. Elle ne serait plus la cause des causes. Si elle est la cause des causes, mais elle n'est pas métaphorique, puisqu'elle commande la causalité efficiente. Donc elle a un réalisme plus grand que la cause efficiente. Et je crois que c'est à cause de ça. Ça, il faut réfléchir, hein, là, c'est un point de vue critique. Parce que, vous allez saisir, hein, j'espère. Si, de fait, ce conditionnement devient une détermination, alors, à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la détermination du principe de causalité finale est au niveau passionnel. Or, je crois que l'amour passionnel, je peux dire, est une causalité métaphorique. Quand je suis pris par le point de vue passionnel, je dis je t'aime, je t'aime, je t'aime, et puis, vous demandez un petit service? Rien. Rien. Il n'y a aucune efficience. La passion n'est pas liée à l'efficience. Hein. La passion, c'est extraordinaire, hein. Ça remue tout. Ciel et terre. Ciel et terre, ça remue tout, mais comme une boule de savon. C'est pas plus que ça. Puis il suffit de mettre le doigt dessus, ça crève. Et puis il n'y a plus rien du tout. Alors ça, c'est l'amour passionnel. L'amour passionnel est métaphorique au point de vue finalité. Et alors, il me semble, hein, parce que ce n'est pas la causalité exemplaire, ce n'est pas le point de vue d'efficience, le point de vue matériel qui explique ça. Tandis qu'ici, il me semble que ce conditionnement est d'autant plus redoutable parce qu'on reste en immanence. Alors une causalité qui reste en immanence, elle est métaphorique, elle n'est pas une véritable causalité. Parce que c'est ça que ça veut dire, métaphorique, hein, vous comprenez bien, hein, l'analogie métaphorique, vous savez bien, c'est le lac rit. C'est métaphorique de dire que le lac rit. Parce que le lac ne rit jamais. Mais il rit parce que quand vous le regardez, il vous semble qu'il y a des choses analogues au sourire de l'enfant. Ou à l'éclat de rire gaulois. Ça dépend, besoin, ça peut arriver. Il y a des lacs qui rient comme ça. Et il y a des lacs qui sourient. Ça dépend de la qualité des lacs. N'est-ce pas? Alors vous voyez bien que c'est toujours métaphorique. Et ce que je dis là est métaphorique. N'est-ce pas? Alors métaphorique, ça veut dire justement la propriété qui est transposée. Alors la propriété de la causalité qui est transposée. Mais ce n'est pas une vraie causalité. Alors la causalité finale n'est plus une vraie causalité. Si la causalité finale n'est plus une vraie causalité, et quand vous dites que la causalité finale est cause des causes, vous voulez dire qu'il n'y a plus de causalité. Et on tombe dans ce que dit Kant. Le fruit de Don Scott, c'est Kant. C'est qu'il n'y a plus de causalité. La seule causalité, c'est l'antériorité la cause. Et le postérieur. On tombe dans la loi de la causalité. Et ce n'est plus la causalité, c'est le conditionnement qui l'a emporté sur la détermination. Ça, c'est capital à comprendre. Hein. Donc, voyez bien les trois conditionnements qui nous sont donnés dès que nous réfléchissons un tout petit peu sur l'aspect génétique de la causalité finale. Les trois conditionnements, cause exemplaire, cause matérielle et le point de vue de l'immanence. Alors, il faut chercher les trois conséquences de ça. L'idéalisme, la cause exemplaire l'emporte sur la cause finale. C'est ça l'idéalisme. C'est une manière d'exprimer l'idéalisme. Hein. C'est une manière d'exprimer ce que c'est que le néoplatonisme. Le néoplatonisme, c'est quand la causalité exemplaire mange la causalité finale. C'est un repas de bois. La causalité exemplaire absorbe la causalité finale. La causalité finale n'est plus vue que dans la lumière de la causalité exemplaire. Une autre manière, c'est quand la cause matérielle l'emporte sur la cause finale. Ça, c'est beaucoup plus matérialiste. Mais on voit très bien. Alors, tout est vu uniquement du côté de l'effet. Je ne comprends la finalité que par l'effet. Et vous jugez uniquement quelqu'un en fonction de ce qu'il donne comme résultat. Vous jugez un ouvrier uniquement en fonction du résultat. Vous jugez la personne humaine uniquement en fonction du résultat. Vous voyez la finalité qui se ramène à la matérielle. On matérialise la parole de Jésus, il faut juger un arbre à ses fruits. Alors on juge un arbre à ses effets, ce n'est pas la même chose du tout. Le fruit et l'effet, ce n'est pas la même chose. Le fruit relève de la fécondité et donc de l'amour, alors que l'effet relève uniquement de la causalité exemplaire. Et vous faites là un petit partage des eaux qui est terrible. Alors juger quelqu'un uniquement par ses effets, c'est justement oublier que la causalité finale est autre chose que la causalité matérielle. Et alors troisième confusion, c'est celle-ci. C'est la plus subtile, c'est celle de Don Scott, c'est la plus subtile. C'est de dire que la causalité finale est uniquement métaphorique. Elle reste en immanence. Elle reste en l'immanence de la passion. Elle reste en l'immanence de l'instinct. Donc, là nous avons les deux grands moments. Le troisième moment, nous l'avions vu, c'est le point de vue du bien commun. Alors, ça c'est très délicat. C'est quand même une troisième expérience que nous avons, du bien commun. Nous avons l'expérience du bien commun dans le point de vue de la coopération politique. Dans la coopération politique, nous avons cette expérience du bien commun. Le bien commun, d'une certaine manière, nous finalise. C'est vrai. D'une certaine manière. Ça nous finalise en ce sens que, lorsque nous avons compris le bien commun d'une communauté, nous nous engageons dans cette communauté en vue de ce bien commun. Le bien commun de l'Église, c'est la sainteté de ses membres. C'est la présence du Christ. C'est la présence de Marie. C'est la présence de l'Esprit Saint. C'est le lieu de la sanctification. C'est ça le bien commun de l'Église. Et on est orienté vers ça. Le bien commun d'une communauté religieuse, c'est en premier la sanctification de ses membres, c'est bien évident, c'est ça. Et c'est pour que la présence du Christ, la présence de Marie, soit plénière. Le bien commun au niveau humain, c'est ce qui relève, vous voyez, de deux choses. C'est à la fois ce qu'on réalise par notre travail et en même temps la concorde de tous les membres. Donc une certaine amitié pour tous les membres. Et cette certaine amitié, c'est un certain amour, c'est une confiance mutuelle. Quand il n'y a plus de confiance mutuelle, il n'y a plus de bien commun. Ça, c'est sûr. Il faut une confiance mutuelle entre les membres. Et alors ça, c'est le bien commun qui finalise d'une certaine manière. Ce conditionnement du bien commun, vous voyez, est très immanent. Alors on retrouve quelque chose d'analogue. Il est très immanent. C'est à l'intérieur de la communauté. Et en même temps, il dépasse chacun des membres. Le bien commun est plus divin que le bien individuel, dit Aristote. Pour montrer justement le caractère transcendant. Ceux qui voudront étudier le bien commun, il y a un mémoire de licence sur le bien commun, alors ils pourront lire ce mémoire de licence, parce que je mettrai les licences, après qu'elles seront passées, pas maintenant. On pourra les mettre à la lecture de tout le monde, si les intéressés sont d'accord. Pas lecture au réfectoire. Mais comme lecture particulière, ça peut être intéressant d'essayer de soi-même pousser. Et sur le bien commun, il y a des choses très importantes et très difficiles à saisir et à bien comprendre. Alors il faut bien comprendre que là, il y a aussi une certaine expérience de la finalité. Mais une expérience beaucoup plus délicate, beaucoup plus difficile à saisir. Je crois que c'est très rare qu'un homme politique saisisse uniquement par le bien commun le sens de la finalité, tellement c'est immanent. Il y a quelque chose de transcendant, mais c'est très immanent. Alors on a beaucoup de peine, vous voyez. Tandis que par l'amour d'amitié, je peux plus facilement, c'est quand même la vie. Tandis que le bien commun, il est un peu anonyme. Il est même souvent très anonyme. Et c'est pour ça que je le respecte pas assez. Parce qu'il ne grille pas. Tandis que l'ami, si vous lui marchez sur les pieds, il dit quand même, c'est. Hein. Tandis que le bien commun, vous lui marchez sur les pieds, et il se taire. C'est un innocent, eh bien comment ? Une innocence remarquable. Vous lui marchez sur les pieds, ne dit rien. Il faut que le voisin dise attention, attention, est-ce que tu as pensé suffisamment au bien commun ? Alors vous vous retournez, mais qu'est-ce que c'est ? Et c'est vrai, si vous êtes loyal, je n'ai pas pensé assez, parce que c'est vrai qu'on doit le découvrir, le bien commun. Il dépasse, il y a une transcendance. Et c'est dans la mesure où il y a une transcendance qu'il y a une finalité. Mais la plupart du temps, on est dans l'immanence. Parce que de fait, on traite le bien commun de cette manière, tout le monde fait comme ça. On a découvert la manière de ne pas payer ses impôts. Tout le monde fait comme ça. Et on est très content. Tout le monde sait l'immanence. On dit cela. Et alors on prend l'opinion de tout le monde pour savoir. Donc on reste en immanence. C'est très très rare que dans le point de vue politique, vous dépassez l'immanence. La démocratie chrétienne, pour la baptiser, justement, reste dans l'immanence. C'est très très rare qu'on voit la transcendance. Donc, alors à ce moment-là, vous voyez bien, vous n'avez plus qu'une finalité métaphorique. Et ça explique comment le bien commun n'est plus vu que du côté de l'efficacité. Ça explique qu'au bout d'un certain temps, dans le bien commun, vous ne voyez plus que les résultats. Et vous oubliez complètement l'aspect premier du bien commun, qui est la confiance mutuelle. Ça, c'est très important à saisir. Et c'est, il faut le saisir sous le point de vue de la finalité, vous voyez ? Sous le point de vue de la finalité. Alors, il y a un problème très, très délicat là-dessus, parce que c'est un problème qui est très intéressant, étant donné que nous sommes là dans l'éthique politique ou l'éthique personnelle. L'éthique, toute l'éthique est commandée par le principe de finalité, l'amour d'amitié. La politique est commandée par le point de vue du bien commun, c'est su, je crois. Vous voyez que le principe de causalité finale est beaucoup moins lumineux et que très facilement on ne voit plus. Alors à partir de ce moment-là, au fond, toute l'éthique perd son sens moral. Je veux dire, toute la politique perd son sens moral. Et on ne voit plus qu'une politique d'efficacité. Alors c'est ce qu'on voit aujourd'hui, qu'il s'agisse d'une idéologie de droite ou d'une idéologie de gauche, vous retrouvez exactement les mêmes personnes, avec des gens différents, des têtes différentes. Bon, je vais dire, des têtes différentes, parce qu'il y a des choses très amusantes là-dessus. Et c'est intéressant de voir ça, mais au fond, c'est les mêmes choses, vu parce qu'on voit que l'efficacité. Bon, alors, ceci c'est pour vous montrer combien c'est difficile, quand il s'agit du principe de causalité finale, de le découvrir dans toute sa pureté. Je crois qu'on ne peut découvrir le principe de causalité finale dans toute sa pureté qu'au niveau métaphysique et la métaphysique de l'acte et de la puissance. Parce que quand vous saisissez l'acte comme antérieur à la puissance, vous pouvez dire à ce moment-là immédiatement tout ce qui est en puissance au niveau de l'être est dépendant de l'acte. Et vous saisissez à ce moment-là le principe de causalité finale dans toute sa pureté au niveau de l'être. Le conditionnement à ce moment-là est complètement dépassé. Mais il faut vraiment saisir l'acte. Alors là, hein, avis aux amateurs. Ça, c'est du trapèze métaphysique. Hein, et c'est pas commun de saisir l'acte. Une fois que vous avez saisi vraiment l'être en acte, distinct de l'être en puissance, vous pouvez immédiatement dire tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Sauf quand il s'agit d'un individu en devenir. Et vous mettez le sauf. Ce qui fait que même là, il y a un conditionnement. Mais il est très faible. Et vous voyez où est le conditionnement. Le conditionnement, c'est que vous saisissez toujours le point de vue de l'acte et de la puissance à partir du devenir. Et vous devez le saisir comme un au-delà du devenir. Et donc, quand vous êtes fatigué, vous retombez dans le devenir. Et quand vous êtes fatigué, qu'est-ce que vous faites ? Alors, quatrième conditionnement, c'est très curieux ces choses-là. Et c'est intéressant à voir parce que ça explique des quantités de choses au point de vue philosophique. Évidemment, je vous dis, il faut l'illustrer avec toute l'histoire de la philosophie, ça. Et toute l'histoire de la philosophie, elle en nous montre ça. C'est l'intérêt de l'histoire de la philosophie. c'est qu'elle illustre les bêtises. Le bêtisier du philosophe, René, c'est intéressant. Alors, elle illustre les bêtises, c'est vrai, dans l'histoire de la philosophie, vous voyez des quantités de moments où il y a eu des fléchissements. Il y a des montées merveilleuses, mais il y a des fléchissements terribles. Alors ici, vous voyez que c'est l'être en acte. Pour saisir l'être en acte, distingue l'être en puissance. Et la primauté de l'être en acte, c'est-à-dire que ce qui est en puissance est totalement dépendant de ce qui est en acte. Pour saisir ça, il faut le saisir au niveau de l'être. Si je suis au niveau du devenir, c'est juste l'inverse. Ce qui est en puissance est antérieur à ce qui est en acte. Donc, le principe de causalité finale exige la distinction plénière, parfaite de l'être et du devenir. Distinction plénière, parfaite de l'être et du devenir. Ça va très loin, ça. Vous ne pouvez pas saisir le principe de causalité finale sans avoir fait cette distinction parfaite entre être et devenir. Dès que vous êtes fatigué, vous retombez dans le devenir. C'est le signe de la fatigue. Et dès que vous êtes fatigué, vous retombez dans le devenir, et alors c'est la primauté de ce qui est en puissance par rapport à l'acte. Donc le conditionnement métaphysique de cette saisie du principe de causalité finale, vous voyez bien, c'est la confusion du devenir par rapport à l'être. Et alors de mettre ce qui est en puissance avant ce qui est en acte. Vous avez un principe merveilleux de ça, c'est tout problème de l'évolution. C'est la grande fatigue philosophique. Vous ne saisissez plus le principe de causalité finale. Mais qu'est-ce qui est en puissance? Alors, à la place de voir ce qui est en puissance par rapport à l'individu, vous transposez ça par rapport à l'espèce. Et ça, c'est la confusion du devenir et de l'être. Ça, il faut le saisir, c'est intéressant, parce que c'est un des grands points de vue d'aujourd'hui, vous voyez. Comme c'est difficile, après l'hégélianisme et après la dialectique hégélienne, de saisir avec netteté la distinction de l'être et du devenir. Comme c'est difficile, alors par le fait même, de ne pas mettre le primat de la puissance sur l'acte, et de ne pas tomber dans l'évolution. Et d'arriver à respecter le principe de finalité au niveau de l'être. C'est plus subtil, évidemment. Ici, c'est plus facile à saisir, parce qu'on est plus proche de notre expérience. Là, on est plus loin de notre expérience. Mais c'est quand même assez facile à saisir au point de vue philosophique que l'être en acte est antérieur par rapport à l'être en puissance au niveau de l'être. Dès que je suis au niveau du devenir, la puissance, du devenir individuel de chaque individu, la puissance est première par rapport à l'acte. C'est bien évident. Et vous en faites l'expérience tous les jours, j'espère. C'est tous les jours vous progressez. Alors, c'est tous les jours vous progressez, vous regardez l'état du matin et l'état du soir, vous voyez que le soir, vous êtes un peu plus en acte que le matin. Et donc, vous êtes passé du devenir à l'acte. Alors, si vous ne faites pas ça uniquement tous les jours, vous pouvez le faire tous les années, tous les anniversaires. Les anniversaires sont faits pour ça, pour voir que, de fait, on est passé davantage en acte par rapport au devenir. Donc, on fait la distinction. Quand on est fatigué, on ne fait plus la distinction et on retombe dans la confusion de l'être et du devenir. Et dès que vous êtes dans la confusion de l'être et du devenir, vous passez de l'individu à l'espèce. Et alors, à ce moment-là, votre principe de causalité finale est vu uniquement en fonction de l'immanence du développement du vivant. Et vous ne saisissez plus le principe de causalité finale. Vous voyez le conditionnement, comme c'est difficile d'arriver à saisir dans toute sa pureté le principe de causalité finale. Bon, une fois qu'on a saisi ce principe de causalité finale au niveau de l'être, je vous ai dit quatre modalités que nous devons saisir. Je les reprends parce que je vous ai dit, c'est une chose tellement importante qu'il faut essayer de bien saisir. Les quatre modalités. Tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en marque. Ça, c'est la modalité première.
Tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en puissance. C'est-à-dire, toute essence possible dépend de l'exister. Puisque l'exister, c'est l'acte d'être.
Alors, tout ce qui est en puissance, je ne le conçois qu'à partir de l'acte. Toute réalité qui est en puissance. Ça, c'est la première manière d'exprimer. Vous voyez tout de suite comment c'est utilisé, nous reverrons demain, comment c'est utilisé en théologie naturelle par rapport aux voies d'accès vis-à-vis de Dieu. Vous avez la tertia via. Ou moins faites le parallélisme, même si vous ne le voyez pas, vous poserez des questions. N'est-ce pas? Parce que c'est intéressant de voir. Il faut essayer de comprendre ça. Hein? Si on n'a pas saisi ça, on n'a pas saisi comment l'intelligence humaine était capable de remonter jusqu'à Dieu. C'est par le principe de causalité finale. Et seulement par le principe de causalité finale. Je ne peux pas remonter jusqu'à l'être premier en dehors du principe de causalité finale. Donc en dehors de la métaphysique de l'être en acte et en puissance. Au niveau profond de l'être. Donc, première manière de concevoir le principe de causalité finale. Tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Tout ce qui est en puissance, l'essence qui est possible, dépend de ce qui est en acte. Tout possible dépend de ce qui est nécessaire. Deuxièmement, vous avez la seconde manière de regarder le principe de causalité. La seconde modalité, c'est au niveau de l'esprit, c'est le bien. Tout amour dépend du bien. Seconde modalité, tout amour dépend du bien. Et comme dans le point de vue potentiel, il y a du plus et du moins, vous pouvez dire tout appétit dépend du bien. Tout acte de volonté dépend du bien. La boulessise dépend du bien. Peu importe comment vous le déclinez, ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est de concevoir tout de suite cette seconde modalité, qui est au niveau de la finalité spirituelle. Au niveau de la spiritualité, la finalité spirituelle, c'est l'esprit qui peut seul concevoir le bien en tant qu'il me transcende. Et alors à ce moment-là, je saisis comment l'amour est nécessairement dépendant du bien. Quinta via. Ça se recouvre. Quinta via. La quinta via, c'est ça. C'est très important de la comprendre de cette manière-là. Parce qu'alors, je peux l'exprimer autrement que l'exprimer saint Thomas. Vous voyez ? Une fois que j'ai saisi le principe. Tant que je n'ai pas saisi le principe, je répète. Une fois qu'on a saisi le principe, on ne répète plus. Mais il faut le saisir. Tout amour dépend du bien. Il faut que ça vous dise quelque chose. Tout amour dépend du bien. Il dépend de l'ami. Bien sûr, je suis accroché à l'ami. Mon ami, c'est mon bien. Ben oui, je suis suspendu à lui. Parce que je l'aime. Alors je suis en état de dépendance vis-à-vis de lui. Et c'est lui qui m'actue. C'est lui qui me finalise et m'actue. Donc tout amour dépend du bien. Donc l'existence de l'amour m'oblige de poser l'existence du bien. Et le passage. Troisième position. À propos d'esprit. Tout jugement vrai dépend de la vérité de l'être qui existe. Alors, on peut dire, dans un langage un peu scolastique, pour préciser, tout vérité formelle dépend et mesuré par la vérité ontologique. Je peux donc dire, toute activité de l'intelligence dépend de la vérité ontologique, dépend du vrai ontologique, dépend de la réalité existante. Alors là, c'est plus difficile de voir l'application dans les voies de saint Thomas. C'est la quarta via. Quarta via, c'est le plus et le moins par rapport à la mesure. C'est une manière de transposer ça. C'est la quarta via. Parce que la réalité vraie mesure le plus et le moins de mon intelligence.
Je suis plus ou moins proche de la réalité. Chacun d'entre nous, du reste. Nous sommes plus ou moins proches. Notre jugement est plus ou moins vrai. Il n'y a pas de vrai absolu dans mon intelligence. Il y a un vrai relatif à la réalité. Et je suis plus ou moins proche. Je suis plus ou moins mesuré par la réalité. Je me laisse plus ou moins mesurer par la réalité. C'est vrai, ça. Je suis plus ou moins proche. Donc, je retrouve bien, vous voyez, le plus et le moins. C'est du côté de l'intelligence que je saisis le mieux le plus ou moins. Je ne le prends pas du côté de l'amour. Parce que du côté de l'amour, ça n'a pas beaucoup de signification. Tandis que du côté de l'intelligence, oui, ça a une signification. On est plus ou moins vrai. Quand on corrige un mémoire, on voit que c'est plus ou moins vrai. Et le critère, c'est ça. Et on dit, il est plus ou moins vrai. Il y a un petit quelque chose qui est vrai. Et puis, c'est pas entièrement. C'est pas l'adéquation parfaite. L'adéquation parfaite, elle n'existe jamais, du reste. Hein. Même saint Thomas. L'adéquation parfaite, elle n'existe jamais. Il y a toujours du plus et du moins du côté de l'intelligence. Parce que l'intelligence est mesurée par la réalité. Et le vrai ontologique mesure. Vous avez donc là la quarta via, qui se sert de principe de finalité exprimé au niveau de l'intelligence, dont la perfection est la vérité, et qui est mesurée par la réalité existante. Donc je peux dire, tout acte d'intelligence, dans la mesure où il est parfait, dépend de la vérité, dépend du vrai ontologique. Il est mesuré par le vrai ontologique. Alors, vous voyez, la dépendance-là se traduit par la mesure. C'est aussi assez joli, ça. Parce que la dépendance se traduit par la mesure. Je peux dire l'un ou l'autre. Il vaut mieux dire la dépendance pour garder le caractère existentiel, le caractère réaliste, mais je peux dire mesurer. Il suffit de comprendre. Alors, quatrième modalité du principe de causalité finale, toute faculté vitale dépend de l'opération vitale. Toute faculté vitale dépend de l'opération vitale. Vous voyez là que j'ai la secunda via. Toute opération, toute faculté vitale, la capacité de voir ou la capacité et la capacité d'entendre, c'est actué, c'est dépendant de l'objet lui-même qui me détermine. Je suis capable de voir et ce que je vois détermine ma capacité. Donc l'objet détermine. Et alors, la cinquième modalité, tout corps physique dépend du mouvement, est ordonné au mouvement. C'est encore mieux de dire, est ordonné au mouvement. Comme il faut, toute faculté vitale est ordonnée à l'opération vitale. Ordonnée. Il y a un ordre de ce qui est second par rapport à ce qui est premier, de ce qui est en puissance par rapport à ce qui est en acte. Et là, j'ai la prima via. La prima via repose entièrement sur ce principe de causalité finale. Tout ce qui est mu par un autre. Ça revient au même. Quand j'ai dit tout ce qui est mu par un autre, c'est parce que le mouvement est l'acte du corps. Si le mouvement est l'acte du corps, vous comprenez bien qu'un corps mu a besoin d'être mu par justement ce qui l'actue. Donc il a besoin d'être mu par un autre. Vous avez donc là les cinq modalités du principe de causalité finale. Et ces cinq modalités du principe de causalité finale, nous les reverrons demain dans l'analyse critique des cinq voies. Je vous les donne tout de suite, hein, parce que c'est intéressant à voir ça, à voir le joint entre les deux. Vous voyez ? Parce que je crois que c'est l'explication fondamentale pour comprendre pourquoi il y a cinq voies. Il ne faut pas faire de l'éclectisme, hein, mais il faut saisir l'unité profonde de la pensée métaphysique. Et l'unité profonde de la pensée métaphysique, elle se découvre à travers, en dernier lieu, à travers les démonstrations par rapport à l'essence de Dieu, par rapport à l'essence de l'être premier que nous appelons. Donc, vous voyez là comment l'intelligence humaine, ayant découvert la priorité de l'acte sur la puissance,
peut saisir immédiatement les cinq modalités du principe de causalité finale. Une fois que je saisis ces cinq modalités du principe de causalité finale, on a déjà vu qu'il n'y a pas d'autre modalité, ni le beau, ni le bien commun, ne peut saisir de modalité. Donc, dans l'étude du travail, du travail avec le point de vue artistique, le point de vue du beau, ne me donne rien. C'est très curieux. Fatscherer est trop lié à l'efficience pour me donner une modalité de la causalité efficiente. Le Fatscherer est trop lié à la causalité exemplaire pour me donner une modalité de l'acte et de la puissance. Donc là, il faut bien saisir ça. Bien saisir que le Fatscherer, comme tel, est commandé par la cause exemplaire et commandé par la cause efficiente. Alors, comme il est commandé par les deux, il ne s'élève pas jusqu'à la causalité finale immédiatement. Il s'élève médiatement. Ça explique que toutes les philosophies esthétiques, ou selon des modalités esthétiques, n'arriveront jamais à découvrir le principe de causalité finale. Voilà ce qui me semble devoir être vu avec beaucoup de netteté, vous voyez, pour saisir le principe de causalité finale à la suite de ces modalités de l'être en acte. Nous allons tout de suite passer maintenant au dernier chapitre de la métaphysique, de la philosophie première, l'étude de l'un et du multiple. Dernier, comprenez bien, il y en a encore un dernier qui est le point de vue de la personne. D'accord ? Alors, je ne sais pas, ça dépend comment vous comptez le chapitre, moi ça m'importe peu. Parce que je ne vous donne pas 1, 2, 3, 4, 5, vous avez premier chapitre, position du problème. Donc, le jugement d'existence. Deuxième chapitre, première induction de Lousia, puis... Alors, vous pouvez mettre qualité, quantité, tout ça. Puis, l'induction de l'acte et de la puissance. Et puis, maintenant, nous allons voir le problème de l'un et du multiple. Le problème de l'un et du multiple. Alors, il faut faire une petite introduction à ça. Parce que c'est un problème très vaste et très important. C'est Remarqueur, qui était un bon taoïste de Louvain. Remarqueur disait dans son manuel de métaphysique, il disait le problème de l'un et du multiple, c'est le problème capital de la métaphysique. Donc, je dirais, c'est le problème capital d'une philosophie néoplatonicienne. Oui. Plotin n'hésite pas à vous dire que le problème le plus fondamental de toute la philosophie, c'est le passage de l'un au multiple. Donc c'est de cette manière que Plotin voit le problème des émanations dans ce qu'est l'on de plus radical. Et pour Plotin, et pour toute la pensée néoplatonicienne, c'est toujours le problème de l'un du multiple qui est premier. Parce que c'est le problème de la participation. Si c'est le problème de la participation qui est premier, le problème de l'un du multiple devient le problème principal. Or, dans la perspective néoplatonicienne, c'est le problème de la participation qui est premier. Et on va voir ça, c'est ça qui est très intéressant. Je réserve le problème de la participation dans l'étude de l'un et du multiple. La causalité, on l'a étudiée du côté de la substance. La causalité, on l'a étudiée du côté de l'acte et de la puissance. On n'a pas encore parlé de la participation, au point de vue philosophique. On n'a pas encore parlé. Qu'est-ce que c'est que la participation? Il faut vous poser la question. Je vous renvoie à ceux qui ont beaucoup de courage au livre du père Geiger sur la participation, qui est un gros bouquin qu'il faut lire une fois. Et puis un autre bouquin encore plus important, qui est celui sur la causalité et la participation, qu'il a écrit à Louvain, n'est-ce pas, le cher professeur de philosophie, thomiste italien, n'est-ce pas, le nom Jacques. Quoi ? Fabreau. Fabreau. Alors Fabreau a écrit une grosse brique énorme, très difficile à lire, qui est sûr, parce qu'elle est très hegelienne, sur le point de vue de la philosophie, de la causalité de la participation. Ceux qui ont beaucoup de courage doivent lire ça, comme le livre du père Geiger. Parce que c'est un gros, gros problème. Un problème qui est très, très fondamental. D'une certaine manière, on peut dire qu'il y a deux visions philosophiques. La vision de la causalité et la vision de la participation. Alors c'est quand même intéressant. Voyez. Et ce problème de la participation se ramène au problème de l'un du multiple. Si on veut vraiment l'étudier, fondamentalement, tel que les néoplatoniciens le voient. Donc il y a là quelque chose de très important. Il faut comprendre donc que toute une perspective du thomisme, Rémacœur, dit que le problème fondamental et premier de la philosophie, c'est le problème de l'un du multiple. Ceci, tous les néoplatoniciens le disent, c'est le problème fondamental de la philosophie, le problème de l'un du multiple. Donc, on devrait commencer le problème philosophique par l'un et le multiple. Il y a un petit quelque chose de ça, pour tous ceux qui commencent la métaphysique, par le problème des transcendentaux. Parce que l'un fait partie des transcendentaux. Vous voyez, c'est intéressant de voir ça. Il y a un petit reste qui demeure, hein. Alors, si vous regardez de finances, par exemple, je parle bien de finances, le père Geiger faisait la même chose, il commençait le problème, il commençait la métaphysique par le transcendant. Regardez tous les manuels thomistes. Il commence la métaphysique par le transcendant. Et donc, le problème de l'un apparaît comme un des problèmes tout à fait premiers. Nous n'avons pas fait ça, n'est-ce pas ? Exprès, croyez-le bien, c'est pas nous. C'est une volonté très nette de faire ça. Alors on peut, il faut comprendre le pourquoi. Il ne faut pas dire, ah oui, on a fait comme ça, donc on va faire comme ça. Non, il faut comprendre pourquoi. Nous le verrons au terme. Pourquoi on commence par le problème métaphysique par les transcendants. Et pourquoi le problème de l'un et du multiple n'est pas le premier problème philosophique. Mais qu'il est au contraire un problème second. Comparativement à l'ousia, par rapport à l'acte. Le problème de l'ousia et le problème de l'acte sont des problèmes principaux, essentiels, parce qu'ils nous donnent les axes de la métaphysique. Le problème de l'un et d'un multiple n'est pas un axe de la métaphysique, c'est un problème second. Alors nous avons donc première position, il faut le voir ça, hein? Première position, la position de ceux qui disent que le problème de l'un et du multiple est principal. La position d'Aristote, qui dit que le problème de l'un et du multiple est un problème second. Et je suis cette position-là. Pas du tout pour faire plaisir à Aristote. Mais je suis cette position parce que je crois que c'est la seule position vraiment réaliste. C'est la seule position vraie. Alors, on verra comment pour Aristote, le problème de l'un et du multiple est un problème second, puisque l'un est acolyte de l'être. Quand vous êtes acolyte, vous êtes second.